Tinoco. Billets d'humeur ou chroniques, anecdotes ou histoires, culturelles et musicales. Inclassable. Aux manettes et au micro, Gilles Béguet. Bonjour à toutes et à tous et encore merci pour votre fidélité. Je suis toujours très heureux à l'idée de débuter une nouvelle saison qui, je l'espère, saura vous plaire. Depuis que ce programme inclut quelques anecdotes qui émaillèrent ma vie, j'entends souvent les mêmes réflexions et commentaires. Il a eu de la chance d'avoir vécu tant de choses, il a beaucoup voyagé, il faut du temps puis des moyens pour vivre cette vie. Commentaire que je réfute et dont je me défends souvent, prétextant qu'il faut simplement un peu d'audace et de confiance. Eh bien ce soir, j'irai dans votre sens en reconnaissant que ma vie et mes expériences furent accompagnées par la chance. Je l'illustrerai à travers le récit d'une semaine de Paris à Prague, en passant par Fontenay-sous-Bois, Nuremberg, Carlsbad, les Tatras et Brno, en Moldavie. Avec en filigrane, comme fil conducteur de cette histoire, un courrier qui, après sa lecture, s'évapora à tout jamais. Dans une précédente émission, Mon père et les Halles de Paris, je mentionnais discrètement ma grand-mère maternelle, Germaine, dit Mémène, lozérienne et tenancière d'un petit troquet au 10 rue Saint-Jean dans le 17e. Elle était veuve, son mari, Julien, était mort en janvier 55, ce qui ne me permet pas de le connaître étant né en 54. L'autre grand-mère, paternelle, dont je vais vous parler, habitait Fontenay-sous-Bois, au 90 avenue Danton, à 140 mètres de chez mes parents. Cette proximité induisit naturellement une fréquentation plus soutenue et régulière. La mère Villeneuve, comme l'appelait l'ensemble du voisinage, était une maîtresse-femme. Née en 1898, parisienne pure souche, elle avait une passion pour la couture dont elle en fit son métier. Elle fut d'ailleurs première main à La Belle Jardinière, l'un des plus vieux grands magasins de la capitale, mais également l'un des plus emblématiques du centre de Paris. Contrairement à ce que ce nom laisse penser, La Belle Jardinière n'a jamais vendu ni pot de fleurs ni tout autre matériel agricole. Non, ce fut le premier magasin fast fashion, comme on dirait aujourd'hui, de l'histoire de Paris. Première enseigne de mode à renouveler très régulièrement sa collection pour produire à bas coût et vendre à petit prix. Bref, cette grand-mère au caractère bien forgé avait un mari, le père Villeneuve, qui n'était pas le père biologique de ses enfants, mais que mon père et sa sœur avaient toujours connu. Le père Villeneuve était donc, par voie de conséquence, mon grand-père. Et par bonheur, était d'un calme olympien, ce qui contrastait avec ma grand-mère. Il était doux et meurtri par cette sale guerre de 14 dont il gardait les stigmates. Les trous profonds comme des points qu'il avait dans le dos et qu'il me montrait étaient le fait de quelques éclats d'obus. Il aimait même parler des Dardanelles, du chemin des dames, des tirailleurs sénégalais qui lui sauvèrent la vie. Ce qui rendait folle ma grand-mère, qui lui disait sans cesse « Tu vas pas arrêter avec tes conneries, tu vois pas que tu fais chier le gosse ?» Il avait gardé une rancune profonde contre les bonnes sœurs, qu'il avait littéralement laissé crever sur un brancard car il n'était pas catholique. Il ne portait pas dans son cœur non plus les gradés et l'armée, au point d'aller piquer le cul des chevaux pendant le défilé du 14 juillet, dans le but de faire tomber leurs cavaliers. Mais Henri et Thérèse, tel était leur prénom, n'étaient pas les deux seuls habitants de ce petit pavillon du 90 avenue Danton. Il y avait mon parrain, Louis Grus, réfugié politique tchèque, que mes grands-parents recueillirent et hébergèrent. Bien qu'étranger à la famille, il en faisait partie intégrante. C'était un homme extraordinaire, instruit et cultivé, parlant 7 langues couramment, ce qui lui valut d'ailleurs d'être retenu comme traducteur auprès du comité olympique. Étant assez incommodé par les propos et jurons de charretier de ma grand-mère, il m'entraînait souvent un peu à l'écart au fond du jardin pour goûter quelques belles pommes cultivées en espalier et dont il prenait le plus grand soin. Faut dire qu'il était végétarien. Cela aussi agaçait ma grand-mère, qui lui faisait la remarque à chaque repas. « Si c'est pour vous taper du lait caillé et des pommes pourries, vous n'avez qu'à les bouffer dehors dans le jardin à 4 pattes comme les vaches. » Ce à quoi il répondait gentiment, presque gêné, « Mais ces pommes ne sont pas pourries, à peine abîmées, ce serait bête de les perdre. » Ce qui agressait aussi ma grand-mère, c'est la manière qu'il avait de se laver. Quel que soit le temps, qu'il gèle ou pas, il faisait sa toilette dans le jardin, à l'eau froide. Louis avait une sœur qui était restée en Tchécoslovaquie. À cette époque, la République tchèque et la Slovaquie ne formaient qu'un seul et même pays. Annie, sa sœur cadette, était restée au pays et n'avait eu qu'une seule autorisation pour venir rendre visite à son frère, ce qui m'avait permis de la connaître d'ailleurs. Il entretenait avec elle une correspondance régulière et fournie, et me donnait à chaque fois les timbres à poser en rang d'oignon sur ses enveloppes un peu froissées et souillées par le voyage. Puis les années passèrent, et le courrier fut un peu moins régulier. Il s'interrogeait fréquemment pour savoir si sa sœur, pour laquelle il s'inquiétait beaucoup, avait toujours la possibilité de recevoir ses lettres auxquelles elle ne répondait plus. Un jour de 1988, il me proposa, du moins nous proposa, car j'étais marié depuis 2 ans à cette époque, de nous offrir un voyage en Tchécoslovaquie pour tenter de remettre un courrier à sa sœur, lui permettant ainsi d'avoir de ses nouvelles. Après une courte réflexion, nous avons accepté cette proposition et nous sommes mis au travail pour préparer ce voyage. Il faut peut-être rappeler qu'à cette époque, le mur de Berlin n'était toujours pas tombé, que la Tchécoslovaquie était sous domination russe, du moins de l'URSS. Dans la nuit du 20 au 21 août 68, les troupes soviétiques avaient envahi la Tchécoslovaquie pour mater l'élan réformateur du printemps de Prague. Ces faits historiques eurent une importance capitale dans l'histoire de ces pays et dans le déroulement de notre voyage. Le premier travail consista à retrouver les coordonnées d'un neveu de mon parrain, le fils de sa deuxième sœur décédée assez jeune. Avec beaucoup de difficultés, accompagné de pas mal de chance, on retrouva, grâce à mon parrain, les coordonnées de Milan Ris. Tel était son nom. Mon parrain le contacta pour lui annoncer notre venue en lui proposant de fixer d'ores et déjà un rendez-vous pour que nous le rencontrions dès notre arrivée à Prague, tout en lui précisant que nous ne maîtrisions pas la langue du pays. L'affaire était dans le sac. Il ne nous restait plus qu'à faire une petite valise, le plein d'essence, et prendre la route, après avoir malgré tout repéré l'itinéraire qui nous conduirait jusqu'à Prague. Le GPS n'existant pas à cette époque. Le 1er avril 1988, au soir, et ce n'était pas un poisson, nous prîmes la route pour un voyage de plus de 1000 km, plein est, avec en poche la si belle lettre d'un grand frère à sa petite sœur. Après quelques heures de route, nous fîmes une première étape à une trentaine de kilomètres de la frontière allemande. Le lendemain matin, après une nuit assez courte, nous avons passé la frontière et fait nos premiers kilomètres à très vive allure, la vitesse n'étant pas limitée sur les autoroutes allemandes à cette époque. À l'approche de Nuremberg, deuxième ville de Bavière après Munich, le poids de l'histoire nous rattrapait et me glaçait le sang. Comment oublier les bombardements qui détruisirent presque complètement le centre historique de Nuremberg en 1945 ? Comment oublier que, promu par Hitler, capitale idéologique du Troisième Reich, et ville où furent promulguées en 1935 les lois antisémites, Nuremberg fut choisie par les Alliés pour y juger devant un tribunal militaire international 24 hauts responsables et 8 organisations du régime nazi, dont la Gestapo et les SS. Comment oublier ces images de tous ces dignitaires allemands, Göring à leur tête, plaidant non coupable devant tant d'atrocités. Ce fameux et historique procès de Nuremberg, qui se tint entre le 20 novembre 1945 et le 1er octobre 1946, inaugura une nouvelle ère pour la justice au travers de ce tribunal international. Mais rapidement et toujours à vive allure, la frontière tchèque se rapprochait. À peine 2 heures plus tard, on se trouvait face au poste de douane. Dès la frontière passée, sous le contrôle de soldats russes, Kalachnikov au poing, nous fûmes transportés dans un autre univers, comme un léger retour dans un passé pas si lointain, nous rappelant nos années 50. Cet asphalte lisse comme du marbre qui nous accompagnait depuis près de 800 km avait fait place à un goudron défoncé, dont certains trous avalaient un bon quart des jantes de ma bagnole. Puis les panneaux de signalisation vert et blanc égrenaient des noms évocateurs. Carlo Vivari, connu sous le nom de Carlsbad en France, célèbre pour ses sources d'eau chaude, puis Pilsen, indissociable du mode de brassage révolutionnaire qui permit la production d'une bière claire et dorée à une époque où les bières étaient soit brunes, soit troubles en raison du résidu de levure dans la bouteille ou dans le fût. Bien que la fatigue nous gagnait, les 100 derniers kilomètres passèrent assez rapidement, du moins plus que le temps qu'il nous fallut pour trouver un hôtel et une chambre. À cette époque, seul le tchèque, le russe et un peu l'allemand étaient pratiqués. Et par malheur, nous ne possédions aucune de ces langues. Le lendemain matin, dimanche 3 avril, après avoir déambulé dans les rues désertes où de nombreux échafaudages supportait des façades décrépies et noircies par le chauffage au charbon, nous entamions le premier acte de notre mission, en tentant de rencontrer Milan Ris dans le hall de la gare centrale de Prague. Les selfies et les réseaux sociaux n'existant pas, il nous avait fallu s'accorder sur un signe distinctif qui permettrait de se reconnaître. C'est donc équipé d'un immense parapluie de golf rouge et bleu, que nous nous sommes mis à déambuler sur le parvis de la gare, à quelques centaines de mètres de la place Venceslas. De vieux soldats soviétiques nous observaient, sous le contrôle de quelques civils, pas si civils que ça. Ils faisaient presque pitié, équipés de briquet de broc, képi mal ajusté, bottes trop grandes, veste verte délavée, les boudinant. Voilà le spectacle qu'ils offraient. Après quelques longues minutes d'attente, un homme d'une cinquantaine d'années et de grande corpulence s'approcha lentement de nous, esquissa un sourire auquel nous avons répondu, tendit sa main et nous prit dans ses bras. Pas de doute, c'était bien lui. Après un franc et vigoureux « Dobry den Milan », c'était un des rares mots que j'avais appris avec un dienkui ici, qui signifie merci. Il se mit à penser que nous parlions un peu tchèque, mais ce n'était pas le cas. Alors Milan nous fit comprendre que nous devions le suivre. Parmi les premières choses intrigantes, il y avait l'intérêt qu'il suscitait auprès des passants. Je me demandais d'ailleurs si c'était notre accoutrement ou nos têtes de touristes, très rares à cette époque, qui suscitait tant de curiosité, au point de faire se retourner tout le monde sur notre passage. Je savais que Milan était acteur et comédien, mais je ne soupçonnais pas sa notoriété. Ce n'est que plus tard, au cours de notre séjour, que j'appris qu'il avait eu un petit rôle dans Amadeus, le film de Miloš Forman, et que tous les soirs, il était sur les planches du Théâtre National de Prague. Après avoir rejoint nos véhicules respectifs, garés côte à côte sur l'immense parking quasi vide qui faisait face à la gare, on se mit en route pour nous rendre chez lui, où j'espérais rencontrer Annie, la sœur de mon parrain. Tout au long du trajet, nous nous réjouissions naïvement, Daniel et moi, à l'idée de passer quelques jours en compagnie d'une célébrité. Mais ce rêve se dissipa très rapidement pour laisser place à la réalité, et ce, dès qu'il eut garé sa très vieille Skoda 1000MB grise, aussi grise que la barre d'immeuble où il se stationna. On hésita d'ailleurs avant de descendre de la voiture, pensant qu'il devait faire une petite course avant de nous accompagner chez lui, et n'imaginant pas un instant qu'il pouvait résider là. Mais la réalité implacable de ce système nous rattrapa rapidement et nous fit comprendre qu'il habitait effectivement dans cet immense édifice. Après avoir monté cet étage à pied, on s'est trouvé face à la porte de son appartement, au fond d'un couloir mal éclairé. L'appartement où nous attendaient son épouse, ses deux fils, sa mère et une autre personne âgée qui n'était pas Annie. Ainsi que Yarda, un ami, à lui, metteur en scène, parlant couramment le français. Bien que très tôt dans la matinée, une immense collation nous attendait, charcuterie, gâteau maison, fromage blanc, fruits secs, tout ça accompagné de bière ou de tisane. Bien que l'accueil fût des plus chaleureux, la première déception vint quand Yarda nous expliqua qu'Annie n'était pas là, ayant été placée dans un hospice, Arbono, une ville située en Moravie à plus de 4 heures de route. Par bonheur, Milan avait eu la riche idée de solliciter l'assistance de son ami Yarda, ce qui simplifia grandement la nature des échanges. Je compris aussi le pourquoi de la présence d'une personne âgée dans leur appartement sans pour autant qu'elle fût de la famille. L'État proposait un appartement à chaque famille en fonction du nombre d'habitants. Et quand cet appartement leur fut accordé, leur troisième fils vivait encore avec eux. Quand celui-ci se maria et quitta le domicile familial, ils durent prendre une autre personne sous leur toit ou rendre cet appartement qui ne correspondait plus aux critères des mètres carrés par occupant. La deuxième mauvaise surprise vint après avoir demandé quand nous pourrions rencontrer Annie pour lui remettre le courrier que m'avait confié Louis. Les visites dans cet hospice n'étant pas autorisées, il nous fallait attendre la fin de la semaine prochaine où le fils aîné de Milan, marié et habitant Rouen, avait eu la permission de prendre chez elle pour une demi-journée Annie, sa grande tante. Il nous fallut donc attendre 7 jours pour la rencontrer. La bonne nouvelle tenait en deux mots. Yarda s'était rendu disponible pour nous accompagner et nous servir de guide durant cette semaine. J'aimerais rapidement revenir sur la surprise que m'occasionna le lieu de résidence de Milan et de sa famille, due à une réglementation rigoureuse encadrant le droit au logement. Alors, sans entrer dans les détails, on m'expliqua que tous les citoyens pouvaient bénéficier d'un logement n'excédant pas 60 mètres carrés et ne générant surtout aucun revenu, que ce soit de location ou de sous-location. Cette attribution publique du logement s'accompagnait aussi d'une norme de surface habitable par personne. Cette norme, dite norme sanitaire, évolua un peu au fil du temps, passant de 9 à 10 puis 12 mètres carrés par personne occupant l'habitat. Mais une seconde surprise vint en découvrant une pratique étonnante. Alors, c'est à dessein que j'emploie le terme étonnant, car pouvant générer une réflexion sérieuse. En plein milieu de ce premier après-midi, et après avoir regardé sa montre à plusieurs reprises, Milan nous annonça qu'il devait y aller. Pensant que c'était au théâtre, j'ai demandé si nous pouvions l'accompagner. Puis après un refus curieux, on m'expliqua qu'il allait travailler à l'entretien de la voirie. En ne comprenant pas bien le cumul de ces deux activités, comédien et cantonnier, On m'expliqua que tout individu valide était soumis à des tâches d'intérêt collectif. Et mettant la tête à la fenêtre, j'ai pu voir au pied de l'immeuble des dizaines de personnes en civil, hommes et femmes, pelles, râteaux et balais à la main, entretenant les abords de la résidence. Un grouillement de brouettes transportant gravillons, mauvaises herbes et quelques détritus rythmait l'ensemble de ces travailleurs, qu'ils soient comédiens, garagistes, médecins ou femmes au foyer. Voilà, après avoir souligné cet aspect non anecdotique de notre séjour, revenons à notre voyage. Parmi les activités qui occupèrent notre semaine, Yarda, homme de théâtre, avait su choisir les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne, sachant que le quotidien d'un Tchèque, à cette époque, saurait nous transporter. Dès le lendemain matin, nous nous promenions dans le centre historique de Prague, où chaque femme, coiffée d'un fichu haut en couleur, poussait un énorme landau monté sur de grandes roues. Derrière chaque capote, retenue par une structure métallique, une tête de poupon emmitouflée jusqu'aux oreilles. A priori, rien d'étonnant, si ce n'est que ces poussettes me rappelaient ma petite enfance et que le taux de natalité était apparemment supérieur au nôtre. Puis vers 10h, nous sommes arrêtés dans une taverne où toutes les tables étaient occupées par des ouvriers, penchés, presque avachis sur leur assiette creuse, d'où s'échappait le fumet d'un bortsch bien chaud. Le plus surprenant résidait autant dans le silence relatif qui accompagnait cette scène que dans le regard fixe et vide de toute expression de ces ouvriers désabusés. Là encore, le souvenir de ce casse-croûte matinal, bourratif et enivrant du taux d'alcool contenu dans chaque panne de bière reste intact dans ma mémoire. En parallèle, une forme de paradoxe m'apparaissait déjà entre la nature des propos de Yarda, plutôt engagée, et l'attitude générale des passants et des ouvriers, apparaissant comme de bons élèves, assez obéissants, d'Andrei Grominko. À peine sorti de cette taverne, Yarda décida de nous montrer un autre établissement où il avait donné rendez-vous à deux amis. Après quelques pas le long d'une ligne de tramway, nous sommes arrivés rue Krememkova dans le quartier Nové Mesto. Au numéro 11 de cette rue, sous une grosse horloge derrière une lourde porte de bois sculptée, nous attendait un émerveillement. Ouf les coups, brasserie fondée en 1499 et restée quasiment dans son jus. Assis sur un bout de banc, deux hommes nous attendaient. Joseph Krofta, marionnettiste, scénariste, metteur en scène avec qui Yarda avait un projet en cours, et le comédien Miroslav Moravec. Il avait une voix très résonante, profonde, doucement mélodique, grâce à laquelle il était d'ailleurs l'un des acteurs de doublage et de radio tchèques les plus connus, les plus importants. Ce qui m'amusa le plus, c'est l'anecdote que nous raconta ce grand comédien. Ayant été la doublure d'Yves Régnier dans la série télévisée Le Commissaire Moulin, il nous raconta qu'il eut l'occasion de le rencontrer à Prague lors d'une journée de dédicace et de promotion. Et quand les Pragois demandaient qui était l'homme à côté de lui, il répondait que c'était Yves Régnier, le commissaire Moulin, et que tout le monde riait, ne voulant pas le croire. Ce qui montre, une fois de plus, l'incidence, l'importance du son et de la voix par rapport à l'image. On peut fermer les yeux et ne plus rien voir, On a beau se boucher les oreilles, on entend toujours quelque chose. Le silence absolu n'existant pas. En parlant de son, ça me fait penser, au cas où j'oublierai en fin de programme, que si les thèmes musicaux qui accompagnent ce récit vous plaisent, vous pouvez toujours vous rendre sur le site orinoco-podcast.com pour consulter la liste complète de cette programmation musicale faite que de compositeurs tchèques. Smetana, Antonín Dvořák, mais aussi Vítězslav Nováč, Bohuslav Martiniu ou encore Leos Janáček. Pour prendre un peu l'air, Jarda nous conduisit jusqu'au bord de la Vltava, le fleuve traversant Prague et coulant sous le fameux pont Saint-Charles. Là encore, une émotion profonde me saisit. Car enfant, mon parrain m'avait offert un très joli disque de Smetana. Joli cadeau à double titre. C'était un enregistrement du Czech Philharmonic Orchestra datant de 1954, mon année de naissance. Et Smetana étant le compositeur emblématique, mon parrain en profitait pour me faire découvrir son célèbre poème symphonique, Stalva, plus connu sous le nom allemand de La Moldo. Et là, tout en observant ses eaux sauvages et puissantes, je me souvenais du récit que m'en faisait mon parrain, décrivant les eaux traversant les forêts de Bohême, puis se chargeant progressivement pour traverser Prague dans un flot tumultueux. Pour la soirée, Jarda nous proposa d'aller au théâtre pour applaudir Milan. Je pense qu'il s'agissait d'une pièce d'un auteur britannique, mais je dois avouer honnêtement que les bières et les kilomètres arpentés durant la journée avaient fait naître en nous une grande fatigue. Malgré tout, après la pièce, Jarda nous conduisit dans les coulisses pour retrouver Milan et le reste de la troupe. Tous ensemble réunis, ils débattaient à voix basse pour préparer, organiser et coordonner ce qui allait être un an plus tard la révolution de velours. Je pense que ce soir-là, ils attendaient aussi Lubos Pistorius, fervent opposant au régime communiste, chassé des scènes pragoises et qui était sur les planches du théâtre de Most, une centaine de kilomètres au nord-est de Prague, pour y jouer « Mort d'un commis voyageur » d'Arthur Miller. Thank you. Petit détail de l'histoire, à cette époque, il y avait un couvre-feu à 23 heures. Condition qui fait aujourd'hui partie de notre quotidien, mais qui à l'époque nous replaçait au temps des guerres dont nous parlaient nos parents et grands-parents. Seuls les gens de théâtre étaient autorisés à être encore dehors après 23 heures, car ils avaient prétexté que ce n'était qu'après les représentations qu'ils pouvaient faire à chaud le retour d'expérience de ce qui avait ou n'avait pas marché durant le spectacle. Et je peux vous dire que lorsqu'à minuit, la police militaire russe débarque et qu'il faut stopper les renétipeuses qui impriment des tracts et des pétitions, ça fait un peu froid dans le dos. Surtout que ce processus d'imprimerie dégageait une forte odeur d'alcool qu'on devait masquer par des verres de vodka, qu'on s'envoyait cul sec, hein, comme si tout le monde trinquait à la réussite de la pièce. Puis un grand ouf de soulagement s'est fait entendre quand, dans son imper de cuir noué à la taille, l'officier soviétique claqua les talons de ses bottes pour faire demi-tour et repartir. Cet épisode de théâtre aurait pu à lui seul faire l'objet d'une émission. Mais je vais essayer en quelques minutes de revenir sur l'importance et la place que Prague eut sur le théâtre. Un peu tout comme Florence apparaît un peu comme le berceau de la Renaissance. Le premier facteur est, de façon surprenante, sa situation géographique, étant, n'en déplaise aux Français, le centre de l'Europe. Les échanges commerciaux attirant de riches commerçants et négociants en tout genre favorisa en parallèle les activités culturelles. La bourgeoisie, dans un premier temps, fit naître un engouement qui suscita rapidement une passion populaire. On peut noter, à l'exception du théâtre Olimpico de Vicenza en Italie, conçu par l'architecte italien Palladio, vers la fin des années 1500, plus vieux théâtre couvert toujours en activité dans le monde, le deuxième théâtre le plus vieux au monde et toujours en activité se trouve à Brno, le Divaldo Retuna. Le théâtre des États à Prague, Savoyské Divadlo, est le plus ancien théâtre de la ville, célèbre et connu comme le lieu où Mozart a dirigé la première de Don Giovanni, le 29 octobre 1787. Et comment aussi oublier qu'assez récemment, il surmet à la tête de l'État celui dont la vie a été qualifiée d'œuvre d'art par l'écrivain Milan Kundera, le dramaturge Václav Havel. Thank you. les jours qui suivirent furent aussi pleins de surprises et d'émerveillements. Je tiens à signaler malgré tout un phénomène récurrent et légèrement dérangeant sur le long terme. Chaque visite aux amis d'Yarda, que ce soit sa famille ou des gens de théâtre, se soldait par des agapes dont on ne ressortait pas indemne. Petite parenthèse refermée, revenons sur une des très belles journées passées à Marienbad, Marianské Lasné, nom de cette ville en langue tchèque, est une station thermale du district de Cheb dans la région de Karlovy Vary. La seule préparation que je m'étais imposée avant ce voyage fut d'aller voir le film réalisé par Philippe Kaufmann, d'après le cinquième roman de Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. On y découvrait une splendide Juliette Binoche, dans une insaisissable atmosphère faite de brume et de buée, déambulant dans une forme d'intemporalité. Et toutes ces villes de cure thermale, et Marienbad en particulier, me laissaient ces mêmes sentiments, ces mêmes émotions que celles que le film m'avait procurées, comme un temps suspendu à pas grand-chose, si ce n'est à rien. Était-ce dû au calme des touristes, à ces vieilles mosaïques, bleues, tendres et légèrement oxydées par les ans? Je ne saurais y répondre, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui encore, ces images se bousculent dans ma tête avec le même ressenti. Sans vouloir faire de l'histoire, je pense que l'ensemble de ces ressentis sont aussi le fruit d'une histoire singulière. Quand on pense que la France a des siècles en tant que pays, la Tchécoslovaquie, elle, vit le jour qu'en 1918. Son histoire est ancienne, mais son identité récente. Après la disparition du Saint-Empire romain germanique, l'Empire austro-hongrois uni par la maison des Habsbourg et régnait sur ce territoire. Puis, envahi durant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, libéré pour une courte période par les armées soviétiques, avant d'être occupé dès 68 par ces mêmes armées. Le fait que trois langues officielles, sans compter les dialectes, soient parlées, a aussi une incidence. Ce métissage et ce brassage de population laisse de fortes empreintes culturelles. Mais la seule et véritable empreinte à cette époque était laissée par l'endoctrinement idéologique où les libertés publiques étaient réduites à leur plus simple expression. L'institutionnalisation de la délation anonyme, de voisinage, transformait chaque citoyen en un policier potentiel. Et ce poids rendait toute initiative, tout déplacement suspect. Voilà, je referme cette courte parenthèse pour poursuivre notre voyage et ma mission, remettre la lettre de mon parrain Louis à sa sœur Annie. décidant de se rapprocher de Brno, où nous devions rencontrer Annie, Yarda nous proposa d'aller rendre visite à son vieux père qui habitait un petit chalet de bois en plein milieu des Tatras. Proposition que nous avons acceptée avec plaisir. Après nous avoir demandé si nous aimions et savions skier, il nous embarqua dans une folle expédition. Tôt le matin, équipés de vieilles paires de skis de bois, nous voilà tous les trois partis à l'assaut du pic Gerlach, culminant à près de 3000 mètres d'altitude. La chaîne des Carpates étant peu touristique à l'époque, nous y avons croisé personne. Le problème résida dans la difficulté à gravir cette montagne à ski, effort qui nous demanda presque 3 heures. Arrivé à destination, je me faisais une joie, du moins nous faisions une joie, Daniel et moi, de profiter de ce point de vue exceptionnel tout en grignotant le petit panier repas que nous avait préparé son papa. Mais Yarda nous laissa juste le temps de partager une bière avant de redescendre, prétextant, à juste titre, que nous ayant observé monter, il estimait qu'il nous faudrait le même temps pour redescendre. Les Tatras, abritant à l'époque toutes sortes d'animaux comme les chamois, des Tatras, des marmottes, lynx, mais aussi des ours. Il était vraiment préférable de rejoindre le chalet avant la nuit. Puis le jour, tant attendu de rencontrer Annie et le neveu, arriva. Bien qu'habitant un petit village sur les bords de la rivière Svratka, à côté d'Brno, c'était dans un immeuble très semblable à ceux de la banlieue de Prague qu'il demeurait. Dès les premiers pas dans l'appartement, j'aperçus cette vieille femme qui, hormis les années, avait toujours le même regard, le même sourire. Ses yeux bleus, légèrement délavés par les ans et à peine masqués par une longue mèche de cheveux blancs, s'échappant de son fichu, ne me reconnurent pas. Il est vrai que notre première et unique rencontre remontait à plus de 20 ans, et entre la frimousse du garçonnet que j'étais en 66 et le barbu moustachu qui se présentait devant elle, il n'y avait pas grand-chose en commun. Les années avaient aussi légèrement altéré certaines de ses facultés. Ne comprenant plus le français, c'est Yarda qui dut lui expliquer qui nous étions et quel était le but de notre visite. Comprenant à ce moment que j'étais Gilles, le filleul de son frère, son sourire illumina son visage. et elle se mit à dévorer la lettre que je lui remis immédiatement. Durant cette lecture, quelques larmes ruisselèrent le long de ses pommettes. Puis après plusieurs lectures de cette missive, elle me prit dans ses bras et me déposa un tendre baiser sur le front et demanda qu'on lui apporte une feuille de papier et un stylo. Après l'avoir approchée de la table, elle se mit à noircir le papier d'une écriture hésitante et tremblante. Le temps passé en sa compagnie ne me suffit pas pour résumer les nouvelles fraîches que son frère m'avait confiées, ni pour répondre à l'ensemble des questions qu'elle me posait. Puis l'heure fatale de se séparer arriva, car il fallait qu'elle réintègre l'hospice avant 16 heures. C'est après de longues embrassades, accompagnées de 1000 promesses et d'une belle lettre en poche, que nous dûmes l'abandonner à son sort, face à cette prison pour vieux qui ressemblait à un mouroir. Notre séjour et notre mission étaient accomplis. Il ne nous restait qu'à raccompagner Yarda chez lui et prendre la route pour Paris. Tout le trajet fut consacré à se remémorer cette semaine pleine d'émotions. La question qui restait en suspens était: comment rapporter à mon parrain les nouvelles que nous avions de sa sœur sans l'inquiéter ni lui mentir pour autant? L'exercice n'était pas simple, car Louis avait une telle affection pour sa sœur que lui annoncer qu'Annie avait été placée dans un hospice, qu'elle avait perdu certaines facultés et qu'il lui était désormais impossible de correspondre, m'était difficilement concevable. La décision que l'on retint fut d'attendre d'être devant lui, pour adapter, pour improviser, avant de lui remettre la lettre de sa sœur, en précisant que ce fut avec un plaisir non dissimulé qu'elle la rédigea. Dès le lendemain soir, une douche froide, glacée comme la mort, me rinça et me glaça au plus profond des eaux. Louis Grus, mon parrain, était mort durant notre séjour et fut enterré le jour où nous rencontrions sa sœur. Je gardais dans les mains, serré contre moi, ce courrier qu'il ne lira jamais. J'ai pu supposer quelques instants que mon parrain nous quitta heureux, imaginant sa petite sœur prenant de ses nouvelles à travers son courrier. J'ai tout de suite pensé aussi au timing improbable avec lequel il me confia cette mission. Puis en parallèle, me vint à l'esprit l'impossible besogne qui m'attendait. Prévenir Annie du décès de son frère. Prêt à lui mentir délibérément, et après quelques jours, j'ai décidé d'appeler Yarda pour qu'il transmette à Annie que de bonnes et fausses nouvelles. Après quelques sonneries, un long blanc, j'ai entendu la voix hésitante de Yarda, m'annonçant qu'Annie s'était éteinte le lendemain de notre départ. Un monde s'écroulait. Je n'ai jamais pu expliquer le sentiment profond généré par l'impression d'avoir été le dernier témoin d'un amour fraternel, contrarié par la politique, les frontières et la connerie humaine.
C'était une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Beg.
Il m'arrive parfois, trop souvent sans doute, d'être rattrapé par cet épisode de ma vie, avec un sentiment d'inachevé. Rattrapé par une sensation étrange, qui me laisse voir la vie comme une course de relais, course qui nous donne le droit de ralentir notre élan, puis de s'arrêter qu'après avoir passé le témoin. Ai-je été le passeur ? Ces deux lettres furent-elles le témoin dont une me serait tombée des mains avant de la transmettre? Puis vient malgré tout la fierté tout de même de ne pas avoir cédé à la tentation de me faire traduire par Yarda le message de ces deux testateurs qui emportèrent avec eux le mystère de ces quelques lignes. Cette lettre, je l'ai brûlée, comme pour faire mon deuil de ce parrain que j'ai tant aimé. J'espère que cette histoire aura su vous emmener au travers des frontières, des époques et des grands questionnements de l'existence même. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Ciao.